Alors, le rôle de la raison dans notre foi, eh bien, vous avez l'apologétique, ce qui est un petit peu ma spie. Je viens depuis bientôt 25 ans à l'école d'évangélisation de Paray le Monial, tous les ans, avant Noël, pour faire un truc comme ça aux élèves de l'école d'évangélisation. Parce que s'ils évangélisent les jeunes ou les moins jeunes, il faut qu'ils puissent donner des raisons de croire. Il ne faut pas dire, vous savez, je leur dis souvent, vous êtes joyeux, mais vous n'avez pas que les chrétiens qui sont joyeux, hein. Quand vous prêchez, vous n'avez pas à annoncer votre joie. Parce que je connais des juifs heureux, moi, des bouddhistes heureux. Qu'est-ce qui vous dit que votre joie chrétienne est meilleure que celle d'un bouddhiste? Hein? Alors c'est vrai que les chrétiens, c'est vrai, j'ai même un certain charisme de joie, il paraît, mais ça prouve pas grand-chose, quoi. Ça suffit pas. Ah nous, on est joyeux, on vient de Paray le Monial, on est joyeux, voilà. Donc la seule, c'est on est joyeux. Oh, c'est un peu court, ça. C'est pas ce que dit Jésus. Ça ne suffit pas. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont percutés par le témoignage de joie de quelqu'un, tant mieux. Mais c'est exceptionnel, quoi. Ça ne suffit pas. C'est pas l'évangile. C'est pas ce que dit l'Église. C'est le fidéisme. Ou bien je sens que c'est vrai. Moi je ne sens pas que l'Eucharistie c'est forcément vrai. Hein. La conception virginale. Bon, l'apologétique expose les raisons que nous avons de croire. Les signes que Dieu nous donne, de son existence, etc. Et répond aux objections. Non. Ce que je fais un petit peu avec vous pendant ces 3 jours. Et alors, vous avez ensuite la théologie. L'apologétique, si vous voulez, c'est en amont de la foi. Ça donne... Alors, ça ne suffit pas, évidemment. Bon, il ne suffit pas... Sinon, mon livre, il est traduit en plusieurs langues, mais s'il suffisait il serait distribué gratuitement par le Vatican, vous voyez. Et puis les gens, ben c'est évident qu'on ne se convertit pas seulement avec un livre, c'est évident. Mais ça peut aider les gens, quoi. Hein, c'est condition qui n'est pas suffisante. Alors, la théologie, c'est en aval. C'est-à-dire qu'on croit déjà. Le théologien, c'est quelqu'un qui croit déjà. Et puis qui essaye de comprendre un petit peu. Car si Dieu nous l'a révélé, c'est pas pour nous faire un acte de foi supplémentaire. Tu comprends rien, c'est bien fait ton débilité. Il n'y a rien à comprendre. Non, il y a quelque chose à comprendre. Parce que en savourant la parole de Dieu, on acquiert, dit l'Église, aliquam intelligentiam, une certaine intelligence, en comparant les mystères les uns avec les autres. On va faire un petit épée de théologie à la fin de mon exposé. Alors voyez, vous voyez tout ce schéma, il est facile à voir. Vous prenez un mystère, un point d'interrogation, et vous l'éclairez par d'autres mystères, eh bien, ce mystère, il deviendra un peu moins mystérieux. Vous prenez un clair-obscur, et vous l'éclairez par d'autres clairs-obscurs, et votre mystère, il deviendra un petit peu plus clair, tout en restant obscur. Il n'y a aucune science qui fait cela. Vous savez que la chimie est devenue une science de plus en plus déductive. Quand j'étais en terminale, on n'apprenait pas ça. Maintenant, à partir de la formule du corps, on arrive à déduire certaines de ses propriétés. C'est magnifique. Science déductive. C'est plus une simple... Bon. En théologie, on ne déduit pas les vérités les uns des unes des autres. Je ne vais pas déduire l'incarnation des mystères de la Trinité. Et a fortiori, le mystère de la Trinité le plus grand, on ne va pas le déduire d'un autre mystère. On y croit uniquement parce que Dieu le dit. Mais... À force de mettre les mystères en rapport les uns avec les autres, en faisant le puzzle des mystères, on se dit, oh, c'est assez normal, Dieu a de la suite dans les idées, et c'est magnifique. Et tous les saints l'ont fait. Je suis en train de terminer un très beau livre sur le curé d'Ars, j'ai envie de le terminer même cette semaine, bon, avec beaucoup d'images. Vous savez combien le curé d'Ars avait de livres dans sa bibliothèque? 300. Et quand il arrivait à Ars, dans la carriole, il y avait 150 kilos de bouquins. Ce n'était pas un intello, hein. Et on voit les traces de doigts. Enfin, alors, il n'avait aucun soin de ses bouquins. Ça. Il coupait les pages de temps en temps. Des gros bouquins. Saint Jean Chrysostome, etc. Il disait, moi, j'ai le Saint-Esprit avec moi. Non, il bouquinait. 2 fois par jour, même. C'est la grande erreur de certains... qu'on trouve parfois, pas à Paray le Monial, hein. Les charismatiques, ils disent pas, on n'a pas besoin des bouquins, il suffit de voir la librairie de Paray le Monial. Ils savent que le Saint-Esprit ne remplace pas les bouquins. Je ne dis pas ça pour que vous achetiez mes bouquins, attention. Non, non. Tous les saints, les moins... Hey. Alors bien sûr, il y a des pères Colbé. Le père Colbé, c'était un surdoué, plus fort que tous ses professeurs de mathématiques. Il avait inventé, pendant la guerre 14-18, l'hétéroplane. Il avait fait les plans de l'engin qui pourrait aller dans l'espace sans kérosène. Bon, surdoué. Vous avez des Bernadette et des curés d'Ars qui n'ont pas un gros quotient intellectuel, et puis des François de Sales, et puis des pères de Colbé qui sont des surdoués. Bon, peu importe. Mais tous, vous voyez, les uns et les autres, ils savent qu'ils ont le droit de ruminer. Il y a un cultivateur qui suit régulièrement mes conférences dans le Nord, et il m'a dit il n'y a pas longtemps, quand je regarde mes vaches, attention, je vous regarde, mais ce n'est pas la même chose, hein. Quand je regarde mes vaches, je me suis aperçu qu'elles font 47 fois le mouvement de rumination. Vous savez, quand une vache va chercher l'herbe qu'elle a accumulée dans sa panse pour la digérer, la ruminer, 47 fois. C'est l'un des premiers verbes du psautier. Heureux qui rumine la parole de Dieu. Eh bien, à force de ruminer, les saints, ils savourent. Il y a quelque chose à savourer. On va faire tout de suite un TP. Prenons la conception virginale. C'est quand même bizarre. Ouais. J'ai fait un sermon à la radio un jour là-dessus. Le jour de la Sainte Famille. C'est quand même bizarre qu'on propose comme modèle aux familles chrétiennes un foyer qui n'a pas eu de relation sexuelle, marié Joseph. Combien de fois j'ai entendu dire ça par les équipes Notre-Dame, monsieur l'abbé, vous voulez montrer que la sexualité est quelque chose de très beau, etc. Ben vous devriez dire qu'au XXe siècle, on a enfin compris que Marie et Joseph, ils ont eu des relations sexuelles très pures. Ça serait tellement bien de montrer que la chasteté de Marie et Joseph est un modèle pour tous les chrétiens, enfin. C'est pas logique, quoi. Ben c'est vrai, c'est pas très logique, je reconnais. Hein, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle en Orient, le modèle de famille, sainte famille, c'est pas Marie et Joseph, c'est Sainte Anne et Saint Joachim, qu'on vient de fêter spécialement en Bretagne, le 26 juillet. Bon, mais comprenez-vous, c'est comme ça, l'Église, elle me dit, petit père, Marie et Joseph n'ont pas eu relation sexuelle, voilà. Tu comprends pas, c'est pas grave, on ne te demande pas de comprendre, c'est comme ça. Voilà, on commence par accepter, et ensuite on essaye de comprendre un petit peu, voilà. Pourquoi vous êtes ici cet après-midi? Je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui n'y ont pas pensé au moins depuis 15 jours. Parce qu'un soir, en général c'est le soir que ça se passe, vos parents se sont tendrement aimés. Vous êtes le fruit d'une étreinte sexuelle entre papa et maman. Ce serait très curieux de faire lever le doigt à ceux qui n'y ont pas pensé depuis 15 jours. On vit, on n'y pense pas, quoi. Moi, c'est même la chambre dans laquelle ça s'est produit. Parce que j'ai vécu pendant des années dans la maison, dans ma maison natale. Il y a même eu une plaque à un moment donné sur la maison, parce qu'il y a un médecin qui est venu s'installer après. Bon, on est le fruit d'une étreinte sexuelle. On n'a pas demandé à venir sur Terre. Hein. J'espère qu'il n'y en a pas trop parmi vous qui disent avec le poète « Malheur ». Le jour où ma mère m'a conçu, quoi. Je ne me moque pas de ceux qui disent ça, parce que vraiment, il y en a qui galèrent terriblement. Eh bien, si vous allez à la messe, en la nuit de Noël, vous fêtez la naissance d'un petit bonhomme qui échappe totalement à cette loi. Le petit bonhomme qui est là sur la paille, entre le bœuf et l'âne, la compagnie de Jésus. J'aime bien les jésuites, je peux les taquiner. Le petit bonhomme qui est là sur la paille, il n'est pas le fruit d'une étreinte sexuelle. C'est pas Marie qui a dit à Joseph, on va pas rester un couple sans enfant. Si on faisait un gosse, qu'est-ce que t'en penses? Ça donnerait un peu de piment à notre vie, hein, hein. On va faire un gosse, allez, on va faire un gosse. Non, non. Le petit bonhomme, il est venu de lui-même. Il préexiste à son papa et à sa maman. On éclaire l'absence du spermatozoïde dans le sein de la Vierge Marie, qui entre parenthèses est un petit mystère, c'est pas grand-chose pour le bon Dieu de faire des choses. Enfin, c'est quand même bizarre, c'est bizarre, c'est même très bizarre. Bon. Le mystère de la conception virginale, on l'éclaire par un mystère beaucoup plus grand, l'éternité du moi de Jésus. Et la fois dernière, je célébrais un dimanche après-midi la messe pour une banque de couples chrétien, il y a un papa qui poussait la poussette de son enfant. Il me dit, vous savez, les enfants, de temps en temps, Mon enfant de 4 ans, il dit, papa, alors, si je comprends bien, si Jésus est le bon Dieu, il préexistait à son papa et à sa maman. Et le papa chrétien me dit, j'y avais jamais pensé. C'est vrai. Voyez la théologie, on ne supprime pas le mystère, on éclaire le mystère par l'ensemble du mystère chrétien. Imaginez que Marie et Joseph aient eu des rapports sexuels comme tout le monde. Eh bien, l'enfant qui serait né de leur union serait un fils d'homme, serait une personne humaine dans laquelle Jésus serait venu, le Verbe de Dieu serait venu habiter. Non, Jésus n'est pas une personne humaine habitée par Dieu. Nous sommes des personnes humaines habitées par Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu en personne.